Ouais. Mais comme vous auriez eu le temps maintenant de trouver votre passage en Osée chapitre 14, juste le verset 3, et ensuite on va reprendre le contexte un peu. Osée chapitre 14, verset 3 nous dit: L'Assyrien ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur des chevaux, et nous ne dirons pas à l'ouvrage de nos mains notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Si on revient, prend le contexte un peu, on voit verset 1 à 3, par exemple, que ce passage, c'est Dieu qui est en train comme pour beaucoup des passages dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui parle directement avec son peuple. Et verset 1er du chapitre 14 nous dit « Israël ». Il nous dit exactement ce qu'il doit faire. « Israël, revient à l'Éternel ton Dieu ». Donc, il s'était éloigné, comme souvent, et il plaide avec eux. « Faut revenir à Dieu. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. » Ce n'est pas la faute des autres, c'est le tien. « Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités. Reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons, au lieu d'être taureaux, l'hommage de nos lèvres. » Et ensuite, il y a le verset 3 qu'on a lu, qui va nous intéresser pour ce matin. Mais regardez également les deux derniers versets de ce chapitre, qui sont également les deux derniers versets de ce livre. Versets 8 et 9 nous disent « Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles ? Je l'exaucerai, je le regarderai, je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. » Donc, pas des idoles. « Que celui qui est sage prenne garde à ses paroles. » Que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Donc, une fois de plus, nous voyons Dieu interpeller son peuple. On voit le cœur, son désir, l'amour qu'il a. Il veut qu'ils reviennent à lui, qu'ils admettent leur tort. Il est clair, il ne cache pas, il ne mâche pas les mots, comme on dit. Mais il veut qu'ils reconnaissent leur péché, et qu'il demande pardon avec sincérité. Il veut qu'il réalise qu'il n'y a pas de salut en quoi que ce soit, ou qui que ce soit d'autre que lui. Pas dans les idoles, pas dans qui que ce soit. On va revenir à ça dans un instant. Mais les idoles que le monde adorait à l'époque, surtout, et parfois toujours aujourd'hui, disaient ils ne peuvent rien pour vous. Et souvent d'ailleurs, la réputation de ces faux dieux, de ces idoles, de la grande majorité, étaient des dieux sévères, des dieux qui parfois étaient même méchants, et pour certains d'entre eux, même, étaient connus pour être cruels. Depuis le tout début, avec Adam, à travers toute la Bible, Dieu se révèle totalement l'inverse de cela. Il est puissant, il est tout puissant, et parfois il juge ou il corrige, mais il s'est révélé à Adam et depuis jusqu'à encore aujourd'hui comme un Dieu qui aime, comme un Dieu qui veut prendre soin et même comme, on va le voir, comme un père. Et il est saint. On sait que Dieu a en horreur le péché. Et on voit tout le temps comment Dieu peut faire la part des choses entre le péché et le pécheur. Où il a en horreur les mauvaises choses que son peuple fait, mais que ça n'empêche pas qu'il continue d'aimer son peuple. Et dans le Nouveau Testament, on voit toujours le même principe. Il a en horreur le péché que font ses enfants, mais qu'il continue à aimer ses enfants quand même. Et tel un père, il prend plaisir à nous protéger, à nous enseigner, à nous corriger, prendre soin de nous et de nous regarder grandir et mûrir. Et tel un père, Dieu nous donne tous les outils nécessaires pour faire face à la vie sans que la vie nous empêche de lui faire plaisir à lui. À maintes reprises, Dieu nous rappelle que non seulement est-ce qu'il nous trouve un endroit sûr dans lequel on peut trouver refuge et être protégé, mais à plusieurs reprises, il nous dit « c'est pas juste que je vous trouve un refuge, mais je suis votre refuge. C'est moi-même, l'Éternel est le rocher et la forteresse ». Par exemple, gardez votre place en Osée, mais en psaume, il y a des maintes et maintes reprises dans les psaumes, cette image nous est donnée. En psaume 18, versets 2 et 3, et ensuite 32 et suivant, Il dit, psaume 18, je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Rien que dans ces deux versets, combien de fois est-ce qu'il va nous donner les termes où c'est pas qu'il nous trouve un endroit auquel on puisse se réfugier et se protéger, mais qu'il est lui-même ce lieu, ce refuge. Je t'aime, ô Éternel, parce que c'est toi, ma force, Éternel, mon rocher, Éternel, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Pas où Dieu me trouve un abri, mais dans ce Dieu qui est ce rocher, qui est un abri, qui est mon bouclier. Pas qu'il me donne un bouclier, mais Dieu est lui-même mon bouclier. C'est lui qui se tient entre moi et les attaques. Et pour l'image du bouclier à cette époque, des flèches qui viennent vers moi. La force qui me sauve, ma haute retraite, c'est lui-même. Et un peu plus tôt, plus loin dans ce même chapitre, verset 32, il dit, car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur les lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Et on pourrait continuer. Mais à chaque fois, c'est le Seigneur qui le fait. Il me fait cela. Tu me fais cela. Ce n'est pas moi. Je n'y peux rien moi-même. Pas besoin d'y tourner, mais en psaume 91, versets 1 et 2, il nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Mais on se dit, oui, mais ça c'est l'Ancien Testament. Bienvenue. On se dit, c'est l'Ancien Testament, mais même le Nouveau Testament nous rappelle les mêmes choses. Et en 2 Corinthiens 3, 5, nous dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et donc c'est lui, c'est pas juste qu'il nous donne ce dont on a besoin, mais il est lui-même ce dont nous avons besoin. Et donc vous aurez remarqué, hein, notre passage, on est en Osée chapitre 14, verset 3, et il dit spécifiquement l'orphelin. Il dit, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Que Dieu choisit de ne pas ignorer l'orphelin et au contraire que l'orphelin trouve compassion auprès de lui. Il les mentionne spécifiquement dans ce passage. Et ce n'est pas le seul. Les orphelins et les veuves ont toujours eu une place spéciale dans le cœur de Dieu. Il y a beaucoup d'enseignements, de directives à travers les Écritures. Déjà en Exode, tout de suite après avoir donné les 10 commandements, un ou deux, je crois que c'est 2 chapitres plus loin, il y a toute une section où il parle de cela, ou de comment s'occuper d'eux. Mais même plus loin, en Deutéronome, je ne les ai pas marqués, donc il faut que je tourne pour lire. En Deutéronome, chapitre 10, versets 12 à 13. Je chante le chant dans ma tête. Deutéronome 10, verset 12. Quand Dieu donne ses directives à son peuple, encore une fois, il dit, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel? Si on a un verset qui commence avec je vais te dire ce que l'Éternel demande de toi, on a intérêt de faire attention, même s'il est en train de parler à son peuple à ce moment-ci spécifiquement. Que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer de servir l'Éternel de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux. Et donc, ça, c'est ma volonté. Pas juste que tu aimes, mais que tu comprennes, que tu acceptes et que tu obéisses, pas certaines, mais toutes les lois que je te prescris. Donc, partie de l'exemple de ces lois, versets 17 et 18, nous dit, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent, autrement dit, On ne peut pas payer son amitié, on ne peut pas l'acheter et faire comme on fait aujourd'hui, tiens, je te donne ça, puis tu me laisses faire ceci. Il ne se laisse pas acheter. On ne lui reçoit point de présent. Et tout de suite après, verset 18, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Et ensuite, il donne les directives sur ça, c'est ce que Dieu fait, c'est ce que Dieu est envers ces personnes. Et il continue en disant, c'est ce que je veux que vous fassiez et comment vous, je veux que vous comportiez envers ces personnes aussi. Pas besoin de tourner, mais en psaume 68, versets 6 et 7, il dit le père des orphelins, le défenseur des veuves, quel titre? Ça, c'est vraiment le titre de ce que je vois qui caractérise Dieu aussi. Ce n'est pas son seul titre, mais c'est certainement un titre qui lui va à la perfection. D'ailleurs, il dit le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. N'est-ce pas le témoignage, la définition d'un père qui adopte un orphelin? Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, qui n'en avaient plus. Psaume 146, versets 9 et 10. L'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement, ton Dieu, au Sion supplice d'âge en âge, louez l'Éternel. Il soutient, on voit à maintes reprises comment Dieu a une place spéciale pour les orphelins et les veuves. Même en Ésaïe 1, 17 nous dit, apprenez à faire le bien, ça c'est notre responsabilité, recherchez la justice, protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. On vient de lire comment Dieu fait déjà cela, lui, que Dieu a à cœur cela pour lui. Mais il dit, mais si vous êtes mes enfants, ben je veux que vous fassiez pareil. Ce n'est pas à moi de le faire et à vous de les ignorer. Moi, je le fais, mais parfois, je vais vouloir le faire à travers vous, justement. Que vous soyez l'instrument que j'utilise pour défendre la veuve et pour défendre l'opprimé et pour faire droit à l'orphelin. Nous savons en lisant le livre de Ruth qu'une loi était établie pour les veuves pour qu'elles puissent glaner dans les champs, si vous avez déjà pris le temps de lire ce livre. Et on voit que c'était une loi dans Israël, que les serviteurs qui prenaient les récoltes, qui travaillaient les champs, ne devaient pas ramasser les épis qui tombaient à terre pour que les veuves de la ville puissent venir et les ramasser pour elles-mêmes, pour qu'elles aient de quoi manger. Tout ça pour dire que l'orphelin et la veuve ont une place spéciale dans le cœur de Dieu. Toute personne ayant perdu leur père dira qu'il y a un vide que personne d'autre ne peut remplir, surtout s'ils ont perdu ce père à un jeune âge. C'est Dieu nous a fait pour que nous ayons besoin d'un père et d'une mère aussi. Mais le Père a une place encore spéciale, parce que nous devrions être une image de notre Père céleste. Et j'aimerais nous encourager tous ce matin, ce n'est pas un message typique pour la fête des pères, de parler des orphelins, n'est-ce pas? De ceux qui n'en ont pas, justement. Mais que j'aimerais nous encourager à venir vers Dieu, nous-mêmes, tel un orphelin, sachant que notre passage nous dit clairement qu'il est, que c'est auprès de lui que l'orphelin trouve compassion. Et que si nous venons devant Dieu tel un orphelin, que nous trouverons compassion auprès de lui aussi. Il ne nous recevra pas comme un étranger, ni comme un orphelin, mais il nous recevra tel un fils. Alors, la première chose que j'aimerais voir, c'est l'encouragement de la promesse de Dieu qui nous est donnée dans ce passage, dans cette déclaration que c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Il nous dit très clairement que c'est auprès de Dieu et nulle part ailleurs que nous trouverons cette compassion. Ce mot compassion en osé est un mot qui peut être traduit de manière interchangeable entre compassion ou miséricorde. Et pour bien comprendre ce que ça veut dire, du fait que Dieu aime, qu'il veut être le père des orphelins, ben, il faut comprendre que ce que peut-être de se mettre à la place de l'orphelin autant que possible. Et de qu'est-ce que lui, il ressent, qu'est-ce que lui, il est en train de vivre. C'est bien plus que d'être sans parents. Hein, c'est d'être sans toutes les choses qu'un parent va apporter. Et ça veut dire, c'est une personne qui est constamment en train de combler ce que le parent devrait être en train de donner d'une manière déjà, on va dire, normale. Il va être sans protection, il va être sans réconfort, sans encouragement, sans guide, sans enseignement. Pas l'habitude de grandir avec la tendresse qu'on reçoit quand on a un père et une mère. Sans sécurité. Un orphelin n'a généralement personne sur qui s'appuyer. Il doit se défendre pour lui-même. Généralement, ils ont du mal à faire confiance aux autres parce qu'ils ont justement pris l'habitude de prendre les choses en main eux-mêmes. Il grandit tant bien que mal, mais avec ce grand vide quand même qui est là constamment. Se rappelle jour après jour, il est orphelin. Il voit les autres enfants avec leur famille, il voit les autres enfants avec une mère, avec un père. Ils sont constamment rappelés. Moi, je suis différent. J'en ai pas. Il y a ce vide, il y a cette tristesse qui est là. Et Dieu dit, je ne suis pas seulement le Dieu des hommes, je ne suis pas seulement le Père de tous, mais je veux être le Père, y compris des orphelins. Dieu les mentionne de façon spécifique. Il ne se satisfait pas juste de dire, je veux être le Père de tout le monde, mais je veux que toi, que tu comprennes, toi qui te sens seul, toi qui te sens différent, rejeté, et qui n'a pas les bénédictions des personnes qui vivent dans une bonne famille, je veux être ton Père de la même manière aussi. Tu n'es pas, comment on dit en anglais, overlooked, tu n'es pas négligé. Mais au contraire, tu as une place spéciale dans le cœur de Dieu. Et on a lu le passage tout à l'heure où dit, Dieu ne fait pas de favoritisme. Et il n'aime pas une personne plus que l'autre ou une personne moins que l'autre. Et Dieu dit, toutes les choses qui te manquent, non seulement ce que je les remplace, mais je les comble. Dieu n'est pas juste un père, mais il est vraiment le père parfait. Dieu ne néglige pas les besoins d'un seul de ses enfants. Dieu promet de prendre soin de nous, pas seulement pour nos besoins physiques, mais même nos besoins émotionnels et sentimentaux, intellectuels et spirituels. Et souvent, on pense qu'on doit seulement venir devant Dieu quand on a un grand besoin ou si on a un besoin spirituel et on néglige le reste, mais Dieu est là. Tel un père qui veut combler tous ses vides pour cet orphelin, il dit, je suis là aussi pour tes besoins émotionnels, je suis là pour tes besoins intellectuels aussi, tous tes besoins. Je n'en néglige pas une seule. D'ailleurs, l'une des leçons que je vois dans ce verset 3 en Osée, c'est que nous devons nous en remettre entièrement justement à Dieu. Et il n'est pas seulement notre Dieu, il est le père de l'orphelin. Il nous dit que même l'orphelin trouve compassion auprès de lui. Les deux versets juste avant parlent de notre besoin d'admettre notre péché, n'est-ce pas? On les a lus. De demander pardon et de vouloir être réconcilié avec Dieu. Avec cette remarque au verset 3, nous avons la promesse que malgré notre péché, malgré ce que nous avons fait qui avons enfreint la volonté de Dieu, si on veut bien admettre et demander pardon, on trouvera compassion. On sera reçu, on sera écouté, on sera pardonné, on sera restauré. Il dit bien que notre force, notre espoir ne se trouve pas ailleurs et que notre espoir ne se trouve pas dans nos capacités. Il parle des Assyriens, verset 3. L'Assyrien ne nous sauvera pas. C'est pas la peine d'essayer de trouver notre salut ailleurs. Il dit, nous ne monterons pas sur des chevaux. Notre espoir ne se trouve pas dans nos capacités, sur ce que nous pouvons faire pour combattre notre propre combat. Mais tel un orphelin qui trouve le meilleur des papas, notre espoir, notre délivrance et notre réconciliation ne peut se trouver ailleurs que qu'en Dieu lui-même. Il aura compassion, pas parce qu'on le mérite, mais parce qu'il a choisi de nous aimer depuis la fondation du monde et il nous le promet. Venez à moi et vous serez réconciliés. Cette vérité est toujours vraie aujourd'hui pour toute personne qui veut être sauvée. Dieu continue à faire. À dire à chaque homme et femme, voyez-vous comme des orphelins. Je suis le père, je veux vous adopter, mais c'est votre choix. Et on va revenir un peu à ça. Mais il leur dit, ne faites pas confiance à vos œuvres, ne faites pas confiance aux Assyriens et à la force des chars et des chevaux. Venez à moi pour vos besoins. Vous aurez compassion. J'ai compassion de l'orphelin, j'ai compassion pour vous. Et tu ne peux faire assez de bonnes choses pour mériter aller au ciel. Ne faites pas confiance dans la parole des hommes. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et Dieu continue à nous dire aujourd'hui qu'il nous aime et qu'il vous aime, qu'il ne rejette personne. Et surtout à cette époque, les orphelins, c'était un peu les personnes rejetées. Et les veuves aussi, elles devaient faire du mieux qu'elles pouvaient. Mais c'était les rejetés de la ville. Mais il dit, pas pour moi, pas auprès de moi. Le fait que Dieu utilise cette image, cet exemple d'un orphelin qui trouve compassion auprès de lui, parle sur le cœur et le caractère de Dieu. Ça nous montre la tendresse et l'amour de Dieu. Il n'est pas seulement cet être tout-puissant qui regarde sa création depuis le ciel pour le juger et avec austérité comme les autres dieux de l'époque. Il regarde avec tendresse, il regarde avec tristesse quand il nous voit désobéissants et quand une personne refuse le salut qu'il nous donne. Il regarde non avec la volonté de détruire et de punir, mais avec compassion et amour, avec la volonté de réconcilier. Même l'orphelin trouve compassion auprès de Dieu. Nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit pour l'influencer. Nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit pour l'encourager de se montrer compatissant envers nous. Dieu a déjà choisi de nous aimer. Dieu a déjà choisi d'avoir de la compassion envers nous, de se montrer miséricordieux au lieu de nous donner ce qu'on mérite. Mais comme toutes les choses qui sont données, une chose n'a de la valeur que si elle est reçue, n'est-ce pas? Et si elle est, seulement si elle est acceptée. Dieu offre le salut à tous les hommes, sans exception. Mais pas tous les hommes sont sauvés. Il faut accepter le salut que Dieu donne. Dieu donne son amour et sa compassion à tous ses enfants. Mais pas tous ses enfants cherchent à être réconciliés à lui non plus. Le cœur de Dieu, c'est de nous aimer. Le cœur de Dieu, c'est de nous réconcilier, d'avoir une communion proche avec lui pour que nous puissions le connaître sur un plan personnel. Dieu désire nous voir au ciel avec lui, mais en attendant qu'on soit au ciel, il veut qu'on apprenne à le connaître et à être heureux de le servir ici sur terre. L'orphelin, il n'a personne. C'est toute l'image de l'orphelin. Il n'a personne qui l'aime, personne pour l'aider, personne pour l'encourager, personne pour pourvoir à ses besoins et de le protéger. Dieu est le père de l'orphelin, des orphelins. Nous pouvons tous trouver en Dieu tout ce dont nous avons besoin si seulement nous voulons bien accepter qui il est et ce qu'il veut nous donner. Alors, après avoir vu un peu l'encouragement que nous avons en réalisant la promesse que Dieu nous donne, quand il nous dit que c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion, pas seulement de trouver compassion auprès de lui, mais surtout pour moi d'être aimé tel un père. C'est pas juste, bon, je te pardonne, maintenant tu peux aller là-bas avec le reste du troupeau, et je te connais plus. Mais si on est orphelin et qu'il nous reçoit tel un père, ça veut dire qu'il nous adopte dans sa famille et qu'il va nous traiter tel un père. Et alors, il nous donne un encouragement sur ce que nous devons faire. Et ça, il faut revenir au verset 1 et 2 qui sont liés à ce verset 3. Il dit, Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités, reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Donc, à plusieurs reprises, il dit, voici votre responsabilité, voici ce que vous devez faire. On vous a dit, voici qui est Dieu, voici de quelle manière il vous aime, voici la promesse de la compassion qu'il veut donner, mais voici ce que vous devez faire. Et comme on vient de le dire, ce n'est pas parce que Dieu offre le salut à tous les hommes que tous les hommes sont sauvés. Et pour reprendre le texte de notre passage, ce n'est pas parce que Dieu offre la compassion à l'orphelin que tout le monde sera pardonné. Nous avons notre responsabilité, notre rôle à remplir. Et la première des choses que Dieu veut de nous est de nous voir confesser nos péchés et non parler de nos mérites. Combien de fois est-ce que quand on parle avec quelqu'un, je l'ai eu encore cette semaine passée, il dit, oui, certainement, je peux faire assez de bonnes choses parce que je sais que Dieu m'aime. Oui, je ne vais pas vous contredire. Oui, Dieu t'aime. Et je fais ceci, je ne fais pas cela, je fais ceci et je ne fais pas cela. Et donc, Dieu me recevra au ciel. Non, Dieu ne veut pas à ce qu'on aille devant lui avec nos mérites. Il veut qu'on aille devant lui en confessant nos péchés, notre faute, qu'on a tort et que ce que nous méritons, c'est d'aller en enfer, c'est d'être rejeté de lui. Un orphelin ne mérite pas d'être adopté. Mais le Père peut choisir par amour pour cet enfant de l'adopter. Si on se voit tel que nous sommes, nous ne demanderions jamais à ce que Dieu nous donne ce qu'on mérite. Reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apporte avec vous des paroles et revenez à l'Éternel, dites-lui, pardonne toutes les iniquités. Dieu nous dit que lui, il est prêt à être miséricordieux, lui, il est prêt à être compatissant. Dieu est prêt à pardonner, mais nous ne serons jamais en règle avec lui tant que nous ne demandons pas pardon. Ceci nécessite qu'on soit honnête, qu'on soit assez humble pour reconnaître que nous avons péché, que nous avons tort, que nous sommes sans excuses. Et c'est là, je crois, l'un des plus grands problèmes de la plupart des personnes. Oh, mais c'est normal. Oh, c'est pas si grave. C'est pas ma faute. Et Dieu veut qu'on aille justement dans le sens inverse. Oui, c'est ma faute. Oui, j'ai tort. Pardonne-moi, Seigneur. Et là, il se montrera miséricordieux, compatissant, au lieu de nous donner ce qu'on mérite. Il n'y a rien, je le ciblais un peu, que Joshua ou n'importe lequel de mes enfants puisse faire que je ne sois pas prêt à pardonner. Je vois mal ce qu'il pourrait faire. Il y a des choses que il serait difficile à supporter, mais à la fin, je sais qu'il n'y a rien que qu'un de mes enfants ne puisse faire que je ne serais pas prêt à pardonner à un moment donné. Ça ne veut pas dire que je pardonne, que j'excuse ce qu'ils font. Mais ils continuent à être mes enfants, ils continuent à être mes fils, à mon fils, et je continue à l'aimer quand même, même si je n'aime pas ce qu'ils ont fait. Je ne peux pas m'empêcher de continuer à les aimer quand même. Alors si je suis prêt à faire ça pour mes enfants, sachant que je suis si loin d'être un aussi bon père que Dieu le Père, comment puis-je douter que lui ne puisse pas faire pareil? Qu'il n'y a rien que je puisse faire qui l'empêche de continuer à m'aimer, qui l'empêche à vouloir continuer à me pardonner quand je reviens avec lui avec sincérité, me montrer miséricorde. Regardez une fois de plus notre texte, verset 3. C'est auprès de toi, notre Dieu, que l'orphelin trouve compassion. Auprès de qui? Ben, pouvons-nous trouver compassion, miséricorde? Seulement auprès de Dieu, nulle part ailleurs. Trouver quoi auprès de Dieu? Ben, compassion, miséricorde, pas ce que nous méritons, pas notre juste salaire. Et heureusement, sinon ce passage ne serait pas de grand réconfort. On est bien Romains 6, 23, hein, le salaire du péché, c'est la mort. Ce que nous méritons à cause de notre péché, c'est de mourir. C'est pas juste la mort physique, mais cette séparation éternelle avec Dieu. C'est ce que je mérite à cause de mon péché, c'est de ne jamais être au ciel, mais de vivre l'éternité en enfer. Ça, c'est le juste jugement. C'est ce que je mérite. Permettez-moi d'avoir une petite illustration par rapport à cela. C'est, vu qu'on est en France, on aime tous le petit grand Napoléon Bonaparte. Mais l'histoire est racontée d'une femme, une mère qui s'est présentée justement devant son empereur Napoléon. Elle s'est présentée devant lui pour demander miséricorde pour son fils, qui était coupable d'avoir enfreint la loi. Napoléon dit à la mère, Madame, c'est la deuxième fois que votre fils se fait prendre, la loi exige qu'il soit mis à mort. La mère répondit en disant, Je sais qu'il mérite la mort. Je ne suis pas venu demander justice, mais miséricorde. Napoléon répondit, Madame, il ne mérite pas la miséricorde. À cela, la mère répondit, S'il méritait la miséricorde, ça ne serait plus la miséricorde. Je demande miséricorde pour mon fils. Alors, Napoléon approuva les paroles de cette mère et accorda miséricorde et libéra son fils. Mais c'est exactement de la façon qu'on doit nous présenter devant Dieu. Seigneur, je ne demande pas justice, je plaie miséricorde. J'ai tort, je mérite cette punition, je mérite cela. Mais je te demande miséricorde. Et ce passage nous dit, c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. On a dit, ce mot compassion est interchangeable avec miséricorde, de nous donner, de ne pas nous donner ce que nous méritons. Et Dieu, c'est pas qu'il prend plaisir, mais il aime voir ses enfants venir devant lui avec humilité. Dire, Seigneur, je mérite d'être puni. Je ne demande pas justice. S'il te plaît, je demande miséricorde. Et à cela, Dieu nous dit, même l'orphelin trouve miséricorde auprès de Dieu quand il n'essaye pas d'excuser ses péchés. Quand vous réalisez combien vous êtes pécheur, que vous trouvez au plus bas et vous croyez que personne ne peut aimer une personne telle que vous, vous pouvez vous rappeler que Dieu est le Père des orphelins et qu'il trouve compassion et miséricorde à chaque fois. Et si vous vous demandez si Dieu veut encore se montrer miséricordieux envers vous, si ce n'est pas trop tard, je dis, mais ça fait tellement de fois que je demande pardon, ça fait tellement de fois pour la même chose que je demande pardon, est-ce que Dieu ne se lasse pas, ne se fatigue pas de se montrer miséricordieux? Ben, je vous encourage à relire le psaume 136 ou sur les 26 versets. Il répète à chaque fois, 26 fois, sa miséricorde dure à toujours. Ayons l'humilité de nous voir tels que nous sommes, pécheurs, coupables, méritant d'être punis, pour ensuite avoir la foi de voir Dieu tel qu'il est. Dieu suprême qui a choisi de m'aimer, de se montrer miséricordieux, plein de compassion et prêt à pardonner. Est-ce que je vais m'entêter, moi, à vouloir faire les choses à ma façon? Est-ce que je vais m'obstiner à excuser et défendre mes choix, mon péché, ou est-ce que je suis prêt à me mettre entièrement entre les mains de Dieu? Il nous dit, c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Auprès de toi, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas faire assez de bonnes œuvres pour satisfaire la sainteté de Dieu. Nous ne pouvons pas enlever notre propre transgression, notre péché. Nous ne pouvons pas nous rendre purs. Nous ne pouvons pas mériter notre place au ciel. Nous ne pouvons pas mériter le pardon. Nous ne pouvons pas mériter la miséricorde de Dieu. Nous ne pouvons pas mériter la compassion ni l'amour de Dieu. Par contre, ce que nous pouvons faire, c'est de placer notre foi entièrement à la personne de Dieu. Je peux croire dans les paroles de Dieu quand il me dit, il me fait la promesse que même l'orphelin trouve compassion auprès de lui. Alors, quand on conclut, ce temps que nous avons dans cette petite phrase, dans ce petit verset, comment pouvons-nous comprendre la joie que ressent un enfant, un orphelin, quand il est adopté par un couple? On a essayé de se mettre à la place de l'enfant quand il est orphelin. Est-ce que vous arrivez à vous mettre à la place de ce même enfant une fois qu'il se fait adopter? Pas juste par n'importe qui, mais par un couple qui l'aime de tout son cœur. Et on dirait que l'enfant serait bête de refuser d'être adopté, n'est-ce pas? Surtout s'il a pris du temps à connaître les adultes qui veulent l'adopter, s'il a vu que ces adultes l'aiment réellement, qu'il n'y a pas de motif caché ou je ne sais quoi d'autre, mais que ce couple lui veut vraiment du bien, qu'ils sont capables de prendre bien soin de lui et de lui donner pas seulement une maison, mais une famille qu'il aime. Dit, mais oui, pourquoi refuserait-il? Alors pourquoi est-ce différent entre nous et le salut que Dieu veut nous donner? Ou après notre salut, pourquoi c'est différent entre nous et la communion que Dieu veut nous donner? Prenons le temps de le connaître et voyez à quel point Dieu nous aime. Voyez que Dieu nous veut du bien. Voyez que Dieu veut s'occuper de nous, prendre soin de nous et nous donner pas seulement le pardon de nos péchés, mais une famille, une relation personnelle avec lui. Et souvent on en parle, on utilise les termes, mais à la légère. On ne comprend pas que Dieu, lui, ne le prend pas à la légère. Que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour mourir sur la croix et souffrir tel qu'il l'a fait pour nous donner, entre guillemets, que le salut. Mais il l'a fait pour que ce salut ne soit que le début d'une communion proche avec lui. Et qu'il veut, de la même manière qu'il ne veut pas qu'on prenne le salut à la légère, il ne veut pas que nous prenions notre relation personnelle avec lui à la légère. Il est tel un Père qui veut nous aimer et que nous nous voyons, que nous le regardions et que nous soyons cet enfant qui honore son Père, qui aime son Père, qui regarde son Père de haut et qui veut ressembler à son Père. Je ne dis pas ça pour mes enfants, mais c'est ce que nous devons faire. Pour nos, en tant qu'enfants de Dieu, ne sommes-nous pas tous appelés à être l'image de son amour, de qui il est, que les autres puissent nous voir le voir à travers nous. Vous savez, ça fait 42 ans que par la grâce de Dieu que je suis sauvé. Que Dieu m'a pardonné mes péchés, il m'a promis une place au ciel. 42 ans que j'ai jamais eu besoin de me soucier de qu'est-ce qui va se passer après ma mort. Pourtant, ça ne m'empêche pas de continuer à venir devant Dieu tel un enfant auprès de son Père. C'est pas parce que ça fait 2 ans ou 42 ans que je suis sauvé, devant Dieu, je suis toujours ce petit enfant, ce petit être. 42 ans, comme au moment de mon salut, je ne viens pas devant Dieu comme si je mérite quoi que ce soit. Il m'est jamais venu à l'idée au moment de mon salut de dire, Seigneur, je mérite d'être sauvé. Et depuis ce moment, quelle audace que j'aurais de dire, Seigneur, maintenant que je suis ton enfant, je mérite d'avoir ces bénédictions. Je mérite d'être pardonné. Je mérite d'être réconcilié. Non, mais comme au moment de salut. 42 ans après, je continue à venir devant lui tel un enfant, dit, je ne mérite pas ces choses. Dieu Père continue à me montrer compassion, miséricordieux. Pourvois, en croyant par la foi que Dieu aime avoir compassion envers moi. Mais ça, c'est moi. Quel est votre témoignage? Quelle est votre relation avec Dieu? Est-ce que vous avez la capacité de vous voir tel un orphelin qui ne peut se passer de ce Père céleste qui veut vous adopter, qui veut avoir cette communion. Un orphelin peut avoir des doutes au début, vous savez. Même après qu'il se fait adopter, il a des craintes. Il dit, je ne sais pas comment ça va se passer, et dans la durée, comment ça va être. Mais avec le temps, justement, alors que ce nouveau Père lui prouve encore et encore, jour après jour, que son amour pour lui est réel, qu'il va effectivement tout faire pour prendre soin de lui, bah, ses doutes s'en vont, ses doutes se dissipent. Et si aujourd'hui vous avez encore des doutes sur l'amour et la compassion de Dieu pour vous, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas digne de confiance, ou parce que Dieu a changé d'avis, mais c'est parce que vous n'avez pas encore bien compris à le connaître. Vous n'avez pas encore bien appris à le connaître. Reconnaissez que vous êtes orphelin, pour ainsi dire. Reconnaissez que vous avez besoin de Dieu. Reconnaissez que vous êtes pécheur et reconnaissez que Dieu est compatissant et miséricordieux. Placez votre foi en lui, faites-lui confiance, croyez en ses paroles, vous ne serez jamais déçu de l'avoir fait. Permettez-moi de lire deux ou trois versets, on terminera par la lecture de ces versets et par un mot de prière qui suit. Psaume 103, versets 13 et 14. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, entre guillemets, de ceux qui le respectent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. En Jean 3,1, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Autrement dit, qu'il nous a adoptés dans sa famille. Si on revient à notre passage en Osée, je ne peux terminer sans cet avertissement que nous voyons dans le chapitre juste avant, chapitre 13, verset 9, ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Besoin d'être secouru, et on se bat contre la seule personne qui peut nous secourir. Pas étonnant que Ce qui cause ta ruine, c'est toi. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Nous avons besoin de la compassion de Dieu. Ne laissons pas notre fierté, notre ego, même nos émotions nous empêcher de recevoir la compassion et l'amour de Dieu. Voyons-nous tels que nous sommes et acceptons Dieu par la foi pour qui il est, pour qu'il puisse nous accorder la compassion, la miséricorde dont nous avons besoin. Prions, s'il vous plaît.